19h30 ici à Paris. L'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans moins de 100 jours, c'est dans 94 jours précisément. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Donc face aux risques sécuritaires, eh bien une vidéosurveillance d'un genre nouveau va être déployée, ce que l'on appelle la vidéosurveillance algorithmique, qui notamment permet eh bien, d'envoyer des alertes quand un événement jugé anormal sur la voie publique est détecté par les images. C'est un dispositif qui se rôde. D'ailleurs, pas plus tard que le week-end dernier, il a été à nouveau testé en deux lieux à Paris. Notre question ce soir, est-ce qu'en termes de surveillance, les JO vont créer un précédent ? Qu'est-ce qui garantit que la situation exceptionnelle, selon les mots du ministre, eh bien, ne va pas s'ancrer dans le temps ? Quelles sont les problématiques également en termes de liberté publique qui sont soulevées par ces caméras intelligentes ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Noémie Levin, bonsoir. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net, qui est une association de défense des droits et des libertés numériques. Face à vous, Thomas Jusquiam, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de sécurité, de contrôle et de surveillance, auteur du livre « Circuler la ville sous surveillance » qui est sorti le 17 avril dernier aux éditions Marchialine. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Caroline Lequen.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Côte d'Azur, directrice du Master 2 en droit algorithmique et gouvernance des données. Voilà, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. D'abord, Thomas Jusquiam, comment cette vidéosurveillance algorithmique, c'est un mot qui peut faire peur à nos auditeurs, comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux caméras auxquelles on est peut-être habitué, qu'on connaît ?
Peut-être ce qui est peut-être intéressant de commencer par dire, c'est que la vidéosurveillance algorithmique, elle a profité d'un vide juridique pour s'installer, au même titre que la caméra classique, la vidéosurveillance classique, qui a été déployée en 1991 à Levallois-Perret, et qui n'a été officialisée, en tout cas qui a été rendue légale dans le Code de la Sécurité Intérieure, en 1995. Et la vidéosurveillance classique, en fait, elle souffrait d'une inefficacité. Encore aujourd'hui, la vidéosurveillance classique n'aide pas à résoudre les troubles à l'ordre public ou les violences. Et donc ça, c'est lié à plein de problématiques, mais notamment à une, qui est celle qui aurait trop de caméras dans l'espace et pas assez de gens pour les surveiller. Et la vidéosurveillance algorithmique, pour répondre à votre question, ce sont des algorithmes de l'IA, ou autrement dit des formules mathématiques, pour rendre ça non plus pas magique, c'est des mathématiciens derrière qui travaillent, et qui vont permettre finalement de détecter certains comportements en analysant des objets, à savoir des humains, avec leur comportement, pour pouvoir remonter une alerte. Et donc cette vidéosurveillance algorithmique, elle répond à cette problématique justement de ne pas pouvoir surveiller, de ne pas avoir suffisamment de personnes pour surveiller. Et voilà.
Oui, l'idée c'est coupler ces caméras à des logiciels qui analysent les images.
C'est ça.
Et qui sont algorithmiques, donc plus poussés pour déterminer ce qu'on appelle un événement anormal. Mais alors c'est quoi un événement anormal sur la voie publique ?
Alors c'est toute la difficulté, la loi des JO qui est venue encadrer la vidéosurveillance algorithmique. Il faut aussi rappeler qu'elle est utilisée depuis des années de manière parfaitement illégale. Il faut aussi le rappeler, la loi d'expérimentation du 19 mai 2023 encadre la vidéosurveillance algorithmique.
On va en parler certainement de cette loi pendant ce débat, mais c'est effectivement ce qui garantit le déploiement de cette vidéosurveillance algorithmique pendant les JO de Paris 2024. C'est le cadre législatif,
Le cadre législatif qui permet de détecter 8 cas de figure. La réalité, elle est tout autre, puisqu'en fait, la vidéosurveillance algorithmique permet, chaque logiciel permet en fait de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est aussi une question qui est posée, comment sont utilisés ces logiciels ? Est-ce qu'il y aura un regard citoyen sur ces usages ? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que le journal Disclose, d'ailleurs, en a parlé. Depuis 2015, la police utilise un logiciel de vidéosurveillance algorithmique appelé Briefcam, qui est utilisé de manière illégale, et on ne sait pas comment c'est utilisé. On sait qu'il y a de la reconnaissance faciale, Disclose l'a démontré, mais on ne sait pas comment c'est utilisé vraiment au quotidien, et c'est aussi un problème.
Levin, juriste à la Quadrature du Net, qu'est-ce qui vous inquiète dans le déploiement de cette vidéosurveillance algorithmique, sachant que, Thomas Jusquiam l'a dit, il y a 8 situations jugées anormales qui ont été définies par décret. Donc je peux les citer, la chute d'une personne au sol, un mouvement de foule, enfin des choses très précises, entre guillemets anormales.
Alors, entre beaucoup de guillemets, puisque une des principales critiques qu'on fait à la vie de surveillance algorithmique, c'est le mythe qu'elle alimente. Il n'y a pas de situation anormale, il n'y a pas de comportement anormaux. Par contre, il y a une norme sociale qu'on peut définir. Et donc, les cas d'usage prévus par ce décret, en fait, ils s'inspirent des cas d'usage vendus par les entreprises. Donc, ça va être des choses très, très banales. Ça va être, par exemple, le fait de marcher à contresens, le fait d'être à terre, le fait de former un groupe. À aucun moment, c'est une infraction, toutes ces situations. Par contre, c'est des préjugés qui, généralement, sont déjà ancrés dans les pratiques policières, qui, là, pour le coup, vont être gravés dans le marbre du code de l'algorithme. Donc, avec cette vidéosurveillance algorithmique, on automatise, certes, le visionnage des images, mais on automatise et on systématise aussi des logiques de stigmatisation et de répression.
Mais ça, ce ne sont pas des infractions, mais est-ce que ça peut être une forme de surveillance pour prévenir de tout acte terroriste qui se préparerait ?
Alors là, voilà, ça c'est encore une autre croyance que la technologie va tout résoudre. On a déjà vu des précédents, on a eu ça avec le Covid il y a quelques années, on avait une situation inédite, une situation sanitaire, et le ministre du numérique de l'époque s'est empressé de proposer une application de suivi des personnes. Ce n'était absolument pas la solution. Par contre, ça a permis une nouvelle forme de surveillance, de tracking des personnes. Ici, c'est exactement la même chose avec les Jeux olympiques. Faut savoir qu'en fait, Paris 2024, et ce que propose le ministre de l'Intérieur, ça s'inscrit dans un phénomène plus large d'instrumentalisation des méga-événements sportifs. Donc on l'a vu avec Tokyo, on l'a vu avec la Russie, on le voit avec la Coupe du Monde. Ces événements, ils ont une dimension exceptionnelle. Ils sortent de l'ordinaire. Et les gouvernements de ces pays hôtes vont utiliser ces événements pour faire passer des lois sécuritaires. C'est vraiment un grand classique. Au Japon, ils ont utilisé les JO pour faire passer une loi répressive qu'ils n'arrivaient pas à faire passer. Et juste, je termine par là. En fait, là, avec les JO, Thomas Jusquiam l'a dit, cette technologie, elle existait depuis très longtemps. Et ils se sont servis de cet événement, et notamment de jouer sur la peur des gens, pour faire passer une technologie qui ne résoudra rien et par contre qui est annonciateur de plein d'autres technologies de surveillance qui arrivent derrière.
Mais est-ce que c'est pour faire passer, comme vous dites, cette technologie ou est-ce que c'est pour répondre à des besoins sécuritaires dans le cadre d'un événement hors norme ? Alors vous avez cité effectivement le Japon, la Coupe du Monde de football en Russie, il y a eu la reconnaissance faciale, les JO de Londres en 2012, les caméras de vidéosurveillance vigilantes, de jour comme de nuit, ça n'avait jamais été mis en place avant.
Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que cette technologie fonctionne ? Mmh. Et aujourd'hui, il n'y a zéro preuve de son efficacité. Ah. Au contraire, les derniers éléments qu'on a eus, ça date de la semaine dernière d'une sénatrice, disent que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ce qu'il faut se poser, c'est déjà, ça ne fonctionne pas techniquement, mais Thomas Jusquiam l'a rappelé, est-ce que ça fonctionne en tant qu'outil de politique publique de sécurité ? Est-ce que les caméras et les caméras de vidéosurveillance algorithmique sont un bon outil de sécurité ? En fait, ça ne prévient aucune infraction, ce n'est pas de la magie, ça ne va pas deviner qu'il y a un terroriste dans la foule. Par contre, c'est un outil de surveillance. C'est un outil qui permet de voir ce que font les personnes au quotidien dans l'espace public, sachant que l'espace public, c'est un espace où on exerce nos libertés, notre liberté d'aller et venir, notre liberté de manifester, notre liberté d'expression. Donc à partir du moment où ça ne fonctionne pas, il faut regarder ce que c'est un outil de surveillance de masse.
Alors, je voudrais vraiment donner la parole à Caroline Lequen, qui en plus se manifeste, mais d'un mot, Thomas Jusquiam, ça ne fonctionne pas effectivement, les caméras de la vidéosurveillance algorithmique, ou qui est expert sécurité.
Oui, alors il y a des méta-analyses, pas que en France, hein, de chercheurs qui ont démontré ça. Ça ne permet pas de lutter efficacement contre le crime violent et cet élément-là. Mais, et surtout, il y a Guillaume Gormand qui a récemment publié une enquête qui a voulu savoir si la vidéosurveillance était utilisée dans la résolution des enquêtes de la police. Il a notamment travaillé avec la gendarmerie et il se trouve que la vidéosurveillance classique est utilisée dans son panel de 1900 cas, n'a été utilisée que dans 1,1% des cas. Donc la vidéosurveillance classique ne fonctionnait pas, en tout cas pour résoudre les problèmes d'ordre public ou les crimes violents de manière importante. Il y a juste une exception dans les parkings, il faut quand même le dire. Quand c'est installé, il y a moins de vols de voitures et dans certaines zones résidentielles.
Caroline Lequen, vous qui dirigez le Master 2 en droit algorithmique et gouvernance des données, il y a une phrase de Thomas Jusquiam dans votre première intervention qui m'a un peu fait tiquer quand vous avez dit que finalement, cette vidéosurveillance algorithmique qu'on annonce un peu comme le grand nouveau dispositif en vue de Paris 2024 a finalement pignon sur rue et est développé en toute illégalité. Vous nous le confirmez, ça, en France ?
Alors, oui et non. Ça serait compliqué, complexe de rentrer dans ces détails-là, mais dire en tous les cas qu'il y a un effort de la part du législateur de de transparence, de mettre sur la place publique un certain nombre de problèmes démocratiques que soulève l'usage de ces dispositifs, parce qu'on sent bien que d'un côté, on a une industrie, des forces de police qui sont désireuses de voir l'implémentation de ces dispositifs au service du continuum sécuritaire, et de l'autre côté, on a des citoyens, des associations qui de droits et de libertés fondamentaux qui appellent à la prudence. Donc, au regard de ce débat qui est particulièrement tendu, le législateur a bien senti que ce serait compliqué de passer en dessous des radars. Et donc, on a cette loi d'expérimentation qui s'efforce de donner un cadre légal pour permettre le déploiement de ces dispositifs. Alors, je rejoins parfaitement ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce n'est pas tant ce qui est en train d'être expérimenté très concrètement qui suscite le plus d'inquiétude que la dynamique générale dans laquelle s'inscrit ces expérimentations. En effet, ça a été dit, c'est des outils qui sont utilisés de longue date sur le terrain, dont on sait qu'ils peuvent avoir des conséquences en termes de liberté publique qui sont assez importantes, parce qu'ils vont véritablement orienter potentiellement le travail policier avec toutes les discriminations et les potentielles atteintes aux libertés que cela peut engendrer. Et de l'autre côté, eh bien, il va y avoir donc du coup une nécessité de voir très concrètement ce qui s'est fait. Et donc à cet égard-là, ce qui va être important ce qui est important de comprendre dans le momentum que l'on vit, c'est que l'expérimentation, elle devra être regardée comme une expérimentation démocratique. Il va falloir très concrètement qu'on puisse savoir ce qui a été utilisé, ce qui s'est fait, si ça a été utile, s'il y a eu des contre-pouvoirs, des contrôles qui ont permis de rendre compte et de passer ce test de manière convaincante. Parce que cette dynamique-là, puisque l'existant était auparavant sur le terrain, qu'on a une normalisation au travers de ces lois, qui est renforcée a fortiori par la législation européenne sur l'intelligence artificielle qui est en train d'autoriser l'usage de la reconnaissance faciale dans les espaces accessibles au public, eh bien, l'étape d'après, c'est de voir quels vont être les contrôles qui peuvent être mis en place et effectivement comment ça s'est passé.
Ouais. Donc, on vient il y a un rapport d'évaluation d'ailleurs qui a été mandaté.
Oui, et d'ailleurs, il faudra regarder de très près cela. Il y a plusieurs institutions, plusieurs autorités qui ont été chargées d'évaluer ces technologies-là. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est, du point de vue démocratique, je pense que ce sera essentiel. Il faudra voir si ces comités d'évaluation ont eu les moyens de réaliser leur exercice, ce qu'elles vont dire, comment elles vont évaluer les protocoles, comment très concrètement on va déployer les choses, comment le terrain va aussi se saisir de ces choses-là. Donc, on est dans un moment ou potentiellement très important, parce qu'on sent aussi, ça a été dit, que les pratiques vont s'ancrer. D'ailleurs, à la suite de l'adoption de la loi sur la vidéosurveillance intelligente il y a un an, une proposition de loi encadrant la reconnaissance biométrique, donc la reconnaissance faciale dans l'espace public, a été déposée et est en discussion actuellement au Parlement. Donc on entrevoit déjà l'étape d'après, les JO, et donc cette expérimentation JO, elle va servir de jalon dans cette dynamique d'adoption des technologies.
Noémie Levin, ça vous rassure un petit peu qu'il y a ce rapport d'évaluation, c'est justement ce qu'évoquait et ce que développait très bien Caroline Lequen, tout ce qui va se passer pendant Paris 2024, et encore une fois, le fait que ce soit encadré par un texte qui a été adopté au printemps 2023. Je vais juste citer un extrait de ce texte qui autorise donc l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique et qui dit que les traitements n'emploient, je cite, « aucun système d'identification biométrique, ne traite aucune donnée biométrique et ne met en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ». Ça, c'était votre ligne rouge.
Alors, notre ligne rouge, elle est plus loin que ça, mais il y a plusieurs choses à dire déjà sur est-ce qu'on est rassuré. Parce qu'effectivement, au moment du projet de loi, et c'est quelque chose qui revient souvent, on nous dit il y a des garde-fous juridiques. Nous, à la Quadrature du Net, on documente depuis des années les mesures de surveillance. Et ce qu'on voit, c'est que les garde-fous, Il ne fonctionne pas. Que ce soit la CNIL, qui en fait avait été créée dans les années 70 pour être un contre-pouvoir de l'État, aujourd'hui... Informatique et Liberté, qui est l'autorité de protection des données personnelles. Elle a été créée dans les années 70 pour prévenir les possibilités de dérives en matière de surveillance, et notamment en matière de fichage. Aujourd'hui, cette autorité de protection, elle fait de l'accompagnement des entreprises, elle fonctionne plus vraiment en tant que garde-fou de l'État. Les autres choses qu'on voit, c'est notamment voilà, le fichage ou les caméras ou d'autres systèmes algorithmiques qui sont déjà utilisés par la police. Il y a des dérives tout le temps. Les garde-fous institutionnels et juridiques ne fonctionnent pas. Et dans le cadre de la vidéosurveillance algorithmique, ce qu'il faut comprendre, par exemple, cette interdiction de traiter des données biométriques, nous, on n'est pas d'accord avec cette interprétation parce que ce qu'on comprend de la technologie, c'est qu'un algorithme, il va analyser tout ce qu'il y a sur l'image et notamment les données corporelles et comportementales des personnes. Et certes, même si à la fin, on ne connaît pas l'identité civile comme avec la reconnaissance faciale, ça reste une technologie très intrusive. C'est-à-dire que l'algorithme va analyser notre corps, va nous classer, nous catégoriser pour décider si on est normal ou pas normal. Et il y a d'autres technologies qui existent qui permettent aussi de nous suivre, par exemple, dans la rue, de nous réidentifier à partir de la couleur de notre vêtement, etc. Et ça, c'est la même technologie. Et la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions, la reconnaissance de comportement, le suivi dans la rue, c'est les mêmes entreprises, c'est les mêmes algorithmes, c'est les mêmes jeux de données. Donc c'est exactement ce que disait Caroline Lequen. Il y a une dynamique. Et nous, ce qu'on dénonce, c'est que peu importe les garde-fous, ce qui est prévu avec cette loi, c'est déjà, il y a des dérives qui sont intrinsèques aux technologies. Et en fait, cette loi, c'est l'arbre qui cache la forêt de tout ce qui arrive après. Donc si on autorise une forme de technologie, les autres vont suivre. Et une dernière chose sur l'évaluation, ce qu'on craint aussi, c'est ce qu'on a vu par le passé, c'est que tout ce qui est expérimental tend à être pérennisé. On a l'exemple de l'état d'urgence qui a duré des années avant d'être pérennisé. Une loi sur le renseignement de 2015 prévoyait aussi un dispositif expérimental de boîte noire qui analysait le réseau. C'était expérimental, ça a été renouvelé, ça a été pérennisé. Et là, on est dans une logique à nouveau d'expérimentation et de promotion de l'innovation. Il y a vraiment une dimension économique très forte. Et je veux finir par là, c'est que nous, on a peur que dans tous les cas, on perde. C'est que si ça ne marche pas, on va se dire « Ah, bah faut continuer pour que ça marche mieux. » Et si ça marche, selon les critères qui seront définis, bah, ça va continuer. Donc, dans tous les cas, le prisme d'analyse, si ce n'est pas celui des droits et des libertés fondamentaux, mais que c'est celui de l'efficacité, c'est on va faire dire à la technologie ce qu'on veut.
Jeux olympiques, en termes de surveillance, est-ce que Paris 2024 va créer un précédent? On en parle alors que le week-end dernier, il y a eu la fameuse vidéosurveillance algorithmique qui a à nouveau été expérimentée en deux lieux de Paris pour un concert et puis dans le cadre d'un match de football de Ligue 1 entre le PSG et l'OL. Noémie Levin, juriste à la Quadrature du Net, association de défense des droits et des libertés numériques que l'on vient d'entendre. Caroline Lequen, en ligne avec nous, maître de conférence en droit public à l'Université Côte d'Azur, directrice du Master 2 en droit algorithmique et gouvernance des données, et Thomas Jusquiam, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité, de contrôle et de surveillance, et à qui je veux m'adresser maintenant, parce qu'on va entamer cette deuxième partie du débat sur, vous l'avez ouvert la porte à cela, Noémie Levin, vous disiez que de toute façon, tout porte à croire que ce qui va être mis en place lors de Paris 2024 va être pérennisé. Et la question que je vais vous poser, Thomas Jusquiam, c'est comment s'assurer que justement cette vidéosurveillance, qui n'est pas censée être pérennisée, ne le soit pas, ou en tout cas ne sort pas des clous. On a dit encore une fois, les images doivent analyser certains types de comportements. Comment faire pour que l'algorithme ne dépasse pas finalement le cadre, on va dire?
Ça va être difficile de répondre. Le futur nous le dira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on est en train d'installer une infrastructure relativement complexe, ça demande du temps, de la mise en place. Installer un logiciel derrière des caméras, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Des ingénieurs doivent venir sur place, il y a toute une partie de mise en place qui peut être assez longue, c'est une infrastructure relativement lourde. Et c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est qu'on est en train d'installer On est en train de mettre en place une infrastructure qu'on ne va pas désinstaller demain, qu'on ne va pas débrancher. Il faudrait même rajouter à cela qu'il y a des enjeux économiques qui sont importants, malgré qu'on parle de surveillance des comportements, c'est triste à dire, mais il y a des enjeux économiques là-dessus. Le marché de la vidéosurveillance en 2021, d'après l'AN2V, donc l'Association nationale de la vidéoprotection, estime le marché à 1,7 milliard d'euros. Il y a des enjeux économiques, il y a un certain nombre d'acteurs français, internationaux, des startups, des grands groupes qui souhaitent se positionner sur le marché, et les JO sont une vitrine pour non seulement le marché français, mais aussi et avant tout pour le marché international.
Donc la raison à ce que la surveillance soit pérennisée, elle est uniquement économique, puisque vous avez dit qu'elle n'était pas sécuritaire.
Non, évidemment, on en a parlé pendant la première partie, il y a évidemment des enjeux sécuritaires. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la vidéosurveillance algorithmique, on n'a pas vraiment de retour d'expérience là-dessus. On est en train de faire une expérimentation, même si on l'a dit au départ, elle est utilisée depuis des années, en dehors de tout cadre légal, hein, j'ai dit que c'était interdit, ouais. Mais c'est en dehors de tout cadre légal, en tout cas certains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de retour d'efficacité. De la même manière qu'on avait le même cas sur la vidéosurveillance classique, aujourd'hui, on ne sait pas si ça fonctionne correctement. Et pourtant, on se lance dedans à pieds joints.
Vous, ça vous inspire quoi, Noémie Levin, justement, le fait qu'il y ait... Parce qu'il y a une date, hein, 31 mars 2025, la fin de l'expérimentation.
Alors, déjà, dire que c'est pas... on n'arrête pas de parler des Jeux Olympiques depuis tout à l'heure. J'ai expliqué que c'était surtout une manière d'accélérer un agenda et un événement facile à instrumentaliser. Mais ça n'a de Jeux Olympiques que le nom, puisque cette expérimentation dure un an, qu'elle concerne tout événement récréatif, sportif et culturel.
Il faut qu'il y ait un arrêté préfectoral. Donc il y a quand même un cadre à chaque Est-ce que ça peut permettre de délivrer des dizaines, des centaines d'arrêtés préfectoraux dans les années qui viennent?
Alors, en fait, ce qui va se passer là dans l'année qui vient, on l'a vu et vous l'avez dit, il y a eu des expérimentations ce week-end pour un match de foot et le concert des Black Eyed Peas. Et la motivation de l'arrêté préfectoral, c'est en très gros de dire qu'il y a une menace terroriste. Et quand même, pour le match PSG-OL, ils ont mis la vidéosurveillance algorithmique à Gare de Lyon. Le lien est quand même très ténu entre l'OL et la Gare de Lyon, parce que les supporters viennent de Lyon. Ce que je veux dire par là...
Là, on est sur une expérimentation.
Mais en fait, on est sur une expérimentation, et du coup, on sort du cadre très protecteur et très rigide du droit des libertés fondamentales, où normalement, il faut une analyse de proportionnalité et de nécessité. Après, moi, ce que ça m'inspire, ce qui a été dit, c'est effectivement pourquoi on a cette technologie aujourd'hui. Et nous, on voit une convergence de trois intérêts. Les intérêts économiques, ça a été dit, c'est un marché énorme. Et cette technologie, aujourd'hui, elle existe surtout parce que des entreprises sont allées voir des collectivités qui les ont achetées. Et donc, il y a un état de fait. Ensuite, il y a les intérêts sécuritaires, autoritaires, de renforcer les capacités de la police. Et après, il y a les intérêts des politiques assez électoralistes. Parce que quand on met une caméra ou on met une caméra algorithmique, on a l'impression qu'on agit sur la sécurité. On joue sur le sentiment d'insécurité en réalité, on rassure les personnes. Et donc cette convergence d'intérêts et d'acteurs permet aujourd'hui d'avoir une loi, mais en fait c'est vraiment très très décorrélé de quelque chose qui serait, on va dire, quantitatif. Et donc c'est pour ça que nous, que ce soit les garde-fous ou l'évaluation, on voit très très peu d'issues qui pourraient être favorables à cette loi.
Comment vous entendez lutter justement à la pérennisation de cette vidéosurveillance algorithmique?
Nous, on sensibilise beaucoup à comment ça fonctionne. On va justement dans les semaines et les mois qui viennent faire en sorte que les gens se mobilisent chez eux et chez elles, puisque ça ne va pas du tout à nouveau être limité à Paris 2024. Il y a la ville de Cannes, par exemple, qui a annoncé qu'elle allait mettre en place cette technique pendant le festival de Cannes de cinéma. Donc l'idée, c'est que les personnes se mobilisent chez elles, qu'elles aillent voir leur mairie, leur demandent quels dispositifs sont déjà en place, demandent à leur mairie aussi de pas mettre en place cette vidéosurveillance algorithmique, investissent la rue. Et on a vu comme ça des luttes locales qui ont fonctionné, qui ont fait reculer des villes, que ce soit pour la vidéosurveillance algorithmique, ou également les micros dans les villes qui arrivent, comme à Orléans. Et c'est vraiment par cette sensibilisation, et notamment la première étape, je dirais, c'est de sortir de l'opacité, puisque ces techniques, généralement, sont achetées dans le secret des conseils municipaux. Donc, de sortir de cette opacité en allant se documenter, en allant demander l'information pour pouvoir exercer ses droits démocratiques.
Et je précise que c'est la première fois qu'un pays lieu
tout à fait
adopte un cadre légal pour ce type de caméra, donc la vidéosurveillance algorithmique. Caroline Lequen, donc pour reprendre finalement à la fois ce que disaient nos deux interlocuteurs, les raisons, Thomas Jusquiane nous évoquait les raisons économiques, Noémie Levin des raisons politiques aussi, beaucoup plus que des raisons sécuritaires, selon ce que vous nous dites, qui en tout cas font qu'il n'y aura pas de retour en arrière, pour reprendre le mot de Thomas Jusquiane. Est-ce que vous partagez cet avis ?
Oui, je partage cet avis. Il y a évidemment un effet cliqué, ça sera compliqué de revenir en arrière. J'aimerais ajouter deux remarques à ce qui vient d'être dit et dans le sens duquel j'abonde. Le premier point, ce qui était intéressant, c'était de rappeler qu'il y a eu énormément de débats qui se sont cristallisés autour de la reconnaissance faciale. Et on comprend que perdre son anonymat dans l'espace public est quelque chose qui fait peur, parce qu'en effet, l'anonymat conditionne l'exercice de nos libertés, notamment politiques. Ce que montrent ces débats aujourd'hui et plus largement autour des JO, c'est que c'est au-delà de la reconnaissance faciale. C'est à partir du moment où on est catégorisé, on est classé, on utilise de manière large la donnée biométrique au sens où elle est définie aujourd'hui par l'Europe, eh bien, en effet, il y a un danger et qui se pose en termes de liberté publique qu'il faut prendre en considération dans l'encadrement. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième, qui va rejoindre la première, c'est qu'en effet, expérimentation, pérennisation sont une dynamique que l'on a pu observer de manière très générale dans l'adoption des traitements automatisés dans des domaines très nombreux de l'administration et de la police. Hein, on l'a vu avec le contrôle fiscal, par exemple. Au début, ces outils-là étaient adoptés à titre expérimentaux. Ils ont depuis lors été pérennisés dans l'outillage qui accompagne l'administration fiscale aujourd'hui. Donc là, je crois que ce qui est important, c'est en ayant à l'esprit précisément ce risque qui pèse sur nos libertés potentiellement en tant que démocratie, à l'aune de l'ensemble de ces outils de surveillance qui, on l'aura compris, forment une même famille d'outils. Eh bien, je crois que dans la mesure où les lois sont passées, et les lois risquent de passer à nouveau. Je rappelle une nouvelle fois qu'on a une loi européenne qui autorise aujourd'hui l'usage de la reconnaissance faciale. Ça devrait être traduit dans les législations nationales, mais la ligne, elle a été franchie. Bon. Maintenant que ce pas est franchi, ben, j'encourage dans le même sens que Noémie Levin à continuer à maintenir nos pressions en tant qu'universitaire, pour ma part, en tant que militant et en tant que simple citoyen. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le temps de la revalibilité. Ouais. On va vouloir, et il sera nécessaire de demander des comptes. Qui contrôle? Qui est habilité? Comment sont fermés les agents? Et au-delà de ça, comme il a été dit par Thomas Jusquiane, est-ce que c'est vraiment efficace? Et combien ça coûte aux contribuables? Parce que ça, c'est aussi des questions très, très concrètes qu'il va falloir poser. De même, on sait que l'industrie est très désireuse d'avoir ses terrains d'entraînement, d'avoir aussi ses clients, parce que l'industrie de la surveillance, c'est aussi derrière l'industrie de l'IA. Et on sait qu'en Europe, on a cette peur justifiée à certains égards de perdre la course qui se joue actuellement entre les États-Unis et la Chine, comme on a perdu la course du numérique. Donc on veut aussi exister de ce point de vue-là, mais il va falloir quand même passer l'exercice de est-ce que ça accompagne vraiment nos polices? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça... Voilà, je pense que les questions démocratiques comme les questions très concrètes et les questions financières devront être mises sur la table.
Et voilà qui conclut très bien ce débat. Les enjeux sont très importants, politiques, économiques. En tout cas, ils sont trop importants aujourd'hui pour empêcher la pérennisation, hein, si je vous suis, de la surveillance qui va être déployée à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous avez répondu à la question, hein, en termes de surveillance. Les JO vont créer un précédent, en tout cas, si on ne lutte pas contre. Merci beaucoup à vous trois. Karine Lequen, maître de conférence en droit public à l'Université Côte d'Azur, directrice du Master 2 en droit algorithmique et gouvernance des données. Noémie Levin, merci, juriste à la Quadrature du Net, association de défense des droits et des libertés numériques. Et merci à Thomas Jusquiane, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité, de contrôle et de surveillance. Et je vais citer votre ouvrage qui est sorti le 17 avril dernier, Circuler, la ville sous surveillance. Merci à Florence Ponce, Arnold Assoa à la préparation, Hélène Avril à la réalisation, la documentation de RFI. Merci. Et dans un peu plus d'une minute, le journal de 20h de Clotilde Dumay, puis Mardi Politique, invité ce soir François Calfon, candidat aux élections européennes sur la liste de Raphaël Glucksmann. Puis ce sera l'heure d'Afrique Soir à 20h30. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Au programme ce soir Zéphirin.
La mesure phare de la politique migratoire du Premier ministre britannique, l'expulsion des demandeurs d'asile, vous le savez, illégaux vers le Rwanda. Après plusieurs mois de débats, le projet de loi a été adopté la nuit dernière par les deux chambres du Parlement britannique. Yeah. Et puis le bras de fer entre les autorités maliennes de transition et l'opposition sur la mesure controversée de suspension des activités politiques et des associations. Plusieurs partis et organisations ont déposé un recours devant la Cour suprême. Leur démarche a-t-elle une chance d'aboutir? Élément de réponse à suivre à 20h30, heure
oui,
de Paris.
C'est dans un peu plus d'une demi-heure. On sera à l'écoute. Merci beaucoup Zéphirin Guadio. Restez connectés à RFI.